salut les 7 milliards de voisins et voisines. Cette semaine, je vous propose de réécouter ou d'écouter les émissions qui ont eu le plus de succès pour tous ceux qui n'étaient pas à l'écoute ce jour-là.
7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins et de voisines, toutes générations confondues d'ailleurs. Aujourd'hui, quelle place pour les personnes âgées dans les pays du Sud et en particulier en Afrique? Certes, la proportion des plus de 60 ans est encore faible sur le continent africain, entre grosso modo entre 5 et 10% de la population selon les pays. Néanmoins, les démographes prédisent que l'Afrique va vieillir, elle aussi. Alors, quelle place pour les personnes âgées dans ces sociétés africaines? La famille doit-elle supporter à elle seule le poids des personnes âgées comme c'est le cas actuellement? Et puis sinon, quelle solidarité à l'épreuve du vieillissement entre le modèle occidental souvent accusé d'abandonner ses vieux et les économies en développement incapables de faire face à la question des vieux-vieux, c'est comme ça qu'on dit dans certains pays. Peut-on inventer une troisième voie? Ni sage, ni sorcier. Nous attendons vos points de vue et bien sûr vos témoignages, les voisins et les voisines, quel que soit votre âge. Vous êtes les bienvenus au 33 1 84 22 71 71. Vous pouvez aussi d'ailleurs poser des questions à nos invités et dialoguer. Je reçois trois chercheurs, Laurent Novick, sociodémographe à l'université de Tours, bonjour.
Bonjour.
Béatrice Lecestre-Rollier, vous êtes anthropologue à l'université Paris-Descartes, bonjour. Et vous publiez tous les deux un ouvrage collectif extrêmement riche sur un sujet encore trop peu exploré et débattu, vieillir dans les pays du Sud. Et puis nous serons en ligne avec l'une des auteurs également, Sadio Banning, qui est sociologue à l'université Gaston-Berger de Saint-Louis au Sénégal. On regardera aussi les cas de l'Ouganda, de la Tanzanie, de Madagascar, du Maroc, mais aussi de l'Inde. Et donc vous pouvez poser toutes vos questions à nos invités 33 1 84 22 71 71. Je vous livre quelques points de vue et témoignages parus sur les réseaux sociaux. Jolie qui est à Kinshasa en RDC. Chez nous, plus on vieillit, plus la société a de l'estime envers vous. La vieillesse est un signe de bénédiction et de sagesse chez les Bantous. Comme l'adage le dit, la bouche d'un vieux pue, mais dit la vérité. Les vieux ont leur place en famille et non dans les maisons de vieillards. La famille est toujours à leurs petits soins. On organise même des rencontres avec d'autres vieux, nous dit Jolie à Kinshasa, dans une belle ambiance arrosée des morceaux de la belle époque. Ils se sentent revivre, c'est vraiment bien. Un autre point de vue fort différent de Bouba à Pointe-Noire, de l'autre côté du fleuve Congo, Congo-Brazza. Les personnes âgées sont maltraitées ici au Congo. On les traite souvent de sorciers, ils n'ont personne pour les protéger, même si l'État fait ce qu'il peut en organisant des journées de solidarité nationale. Voilà, version idéalisée, version diabolisée. Quelle est la réalité du vieillissement en Afrique? Vos réactions, les voisins et les voisines, et on en parle avec nos invités. 33 1 84 22 71 71.
7 milliards de voisins, c'est vous qui faites l'émission.
Laurent Novick et Béatrice Lecestre-Rollier, vous êtes tous les deux dans le studio de 7 milliards de voisins. D'ailleurs, 7 milliards de voisins, vous pouvez peut-être nous dire qu'on est, on est plus 7 milliards, c'est ça? Il va falloir changer.
Un petit peu plus.
7,2, vous confirmez à peu près?
On ne sait pas exactement quand même quelle est la taille de la population mondiale.
Nous parlons en tout cas des personnes âgées aujourd'hui. D'ailleurs, Laurent Novick, on considère qu'à quel âge on est vieux?
Ah, c'est sans doute par là qu'il faudrait commencer à débattre. À quel âge on est vieux? À quel âge on est vieux au nord? À quel âge on est vieux au sud? C'est des questions tout à fait relatives. Je suis pas sûr que, en tout cas, il faille fixer un âge chronologique. Dans les pays du Nord, on a construit cet âge en fonction de l'activité professionnelle. Donc,
Alors, comme maintenant, on travaille de plus en plus longtemps.
Oui, enfin, le changement est en cours, il est lent, il sera progressif, mais c'est surtout la longévité qui a progressé beaucoup plus vite que le temps de travail.
Ouais.
Donc, en tout cas. Quand on était dans les années 70 un retraité, en France, on était un vieux. Et donc, c'était 65 ans, puis c'est devenu 60 ans. Cet âge s'est un peu institué comme étant un seuil du passage à la retraite.
C'est ça, si tant c'est qu'on ait un droit à la retraite, c'est pas forcément le cas dans les pays du Sud, si on n'est pas fonctionnaire.
C'est tout le problème que ça pose, hein, c'est-à-dire que toutes les mesures statistiques sont fondées sur cet âge de 60 ans. alors que la majorité des pays du Sud ne sont pas concernés par cet âge, puisque le secteur informel prend de énormément de place, et en particulier le secteur agricole, et les gens travaillent bien au-delà de 60 ans, qui est un âge complètement fictif.
On le voit dans vos témoignages, des personnes de 75 ans qui continuent de cultiver leur champ, tout simplement parce qu'il faut mettre quelque chose dans son assiette le soir. Laurent Novick, ça fait des années que je vous pose la question à vous, parce que vous êtes démographe et que les démographes nous prédisent le vieillissement de la population en Afrique. Force est de constater que jusqu'à maintenant, ils se sont trompés. L'Afrique subsaharienne compte toujours en moyenne 5 enfants par femme.
À peu près, oui.
Donc,
non, mais
vous continuez de dire que l'Afrique vieillira,
oui,
c'est sûr et certain.
L'Afrique vieillit et vieillira, et je crois qu'il faut distinguer trois notions. La notion de vieillissement démographique ou vieillissement de la population. C'est la notion peut-être la plus théorique, difficile à apprécier par le commun des mortels. Lorsqu'on dit qu'il y a en Afrique 5% de personnes âgées, vous voyez, on reprend le terme parce qu'il faut bien utiliser un terme, de plus de 60 ans en Afrique, on a l'impression que c'est évidemment pas grand-chose. Et que cette proportion, pour le moment, croît lentement. Dans certains pays d'Afrique, on n'est pas à 5%. On est à près de 9% au Maroc. En Tunisie, on a déjà dépassé les 10%. À Maurice, on doit être sans doute le pays le plus vieux d'Afrique. On doit être à 13%. Bon, cette proportion va augmenter. Elle augmente probablement pas aussi vite que ce qu'on imaginait il y a une vingtaine d'années. Parce qu'en fait, cette proportion est liée à la baisse de la mortalité, tendanciellement. Ce qui fait qu'on vit plus longtemps, donc il y a plus de personnes âgées.
Y compris en Afrique,
âgées, et en Afrique aussi. Plus de personnes âgées, on va dire, en haut de la pyramide des âges. Mais elle dépend, cette proportion aussi, encore plus même, de la fécondité. Donc quand la fécondité ne baisse pas aussi vite que ce qu'on aurait imaginé, en tout cas reste soutenue,
la
part des jeunes se maintient. Et donc la part des jeunes, des personnes âgées, semble relativement faible.
Vous voyez, ça, dans la masse des jeunes.
Ça, c'est la notion de vieillissement démographique. Et je pense que pour l'Afrique, on peut l'oublier momentanément. Le problème n'est pas là. Le problème, il est d'abord dans le fait qu'on vit de plus en plus vieux. Donc ça, c'est la longévité individuelle. Et quand on a 80 ans en Afrique, a priori, on n'est pas moins vieux, voire peut-être plus qu'à 80 ans en Europe, lorsqu'on a eu accès à un système de soins plutôt plus efficace qu'en Afrique. Ça, c'est la question du vieillissement individuel. Il concerne tout le monde. Et la troisième notion qu'il faut mettre sur la table aussi, et qui est un défi tout de suite, aujourd'hui déjà, pour les pays du Sud, c'est la notion, alors certains ont dit gérontocroissance ou gérocroissance, du nombre absolu de personnes de plus de 60 ans, de plus de 65 ans. Mettons le seuil là où on le veut, où on l'estime nécessaire, mais en tout cas relativement âgés, et qui ne cessent de croître. Aujourd'hui, en Afrique, on a plus de 50 millions de personnes de 60 ans et plus, et en 2050, ça sera quadruplé. Ça sera 200 millions,
et ça
210
sera,
millions.
L'Afrique sera donc le deuxième continent à posséder le plus de personnes âgées après l'Asie.
Le stock de personnes âgées
sera très important. Ça peut
sembler
incroyable.
Et ça sera presque la même chose que ce qu'on a aujourd'hui en Europe. 210 ou 240 millions. Donc si 240 millions en Europe aujourd'hui nous préoccupent, il n'y a pas de raison de penser que nos 210 millions en Afrique dans 35 ans ne seront pas un débat.
Bon, vous vendez bien votre sujet, je veux dire, tous les deux, mais c'est vrai que pour le moment, les auditeurs qui nous écoutent se préoccupent davantage du chômage des jeunes dans les pays du Sud. Vous établissez tous les deux un lien très intéressant, d'ailleurs, entre les printemps arabes et la démographie. Laurent Novick.
Je pense qu'on en a parlé de façon insidieuse dans l'ouvrage. La démographie, et les systèmes d'organisation sociaux sont quand même toujours assez liés. Donc, dans les sociétés traditionnelles anciennes, on a des rapports d'autorité, de domination que les anciens ont pu mettre en valeur dans le passé, parce que finalement, et le premier auditeur dont vous faisiez état tout à l'heure le rappel, les anciens, c'était les sages, c'était la sagesse, l'estime, la connaissance, le savoir, et on était dans une tradition orale. Il n'y avait pas de problème de chômage, tout le monde travaillait dans le monde agricole, et voilà. Aujourd'hui, on est dans une autre société où la scolarisation a énormément augmenté, où les personnes d'une vingtaine d'années recherche non seulement une insertion professionnelle après des études plus longues, cherche à construire une famille et ont des difficultés à le faire dans de nombreux pays du fait de la précarité et de la difficulté de l'insertion économique. Donc du coup, on a un groupe d'âge qui, démographiquement parlant, est beaucoup plus conséquent et qui revendique un certain nombre de droits, une autonomisation.
Du coup, il y aurait une crispation générationnelle au Maghreb, Béatrice Le Sestre ?
Oui, non, c'était juste pour réagir. Effectivement, on a l'impression que l'Afrique est encore un pays jeune et que les problèmes principaux sont des problèmes d'intégration de la jeunesse. Oui, un continent, pardon. Les pays du Maghreb n'échappent pas, on l'a vu à travers les révolutions arabes que vous mentionnez. Mais ce que les démographes pointent, c'est que ce vieillissement est mondial aujourd'hui. Alors, même s'il se fait à des échelles différentes, même s'il peut être retardé par des problèmes d'épidémie, de guerre, etc., tous les pays sont concernés et ça va aller très vite. C'est-à-dire que là où l'Europe a mis beaucoup de temps, a eu du temps pour s'adapter, les pays africains et les pays du Sud en général, ça va se faire en quelques décennies.
La Tunisie,
si on prend le Maroc par exemple,
a fait la même chose que l'Europe en 30 ans.
En 30
absolument,
ans,
l'Europe a mis
ans,
quoi, un siècle et demi.
Exactement. J'ai quelques chiffres si vous voulez pour le Maroc. Eh bien, par exemple, les moins de 15 ans, c'est presque la moitié de la population dans les années 60. C'est pas tout à fait un quart aujourd'hui, et les projections pour 2050, c'est 17%. Alors que la part des 60 ans et plus, c'était 8% de la population en 2010 d'ailleurs, ce sera un quart de la population en 2050.
Mais ce qui veut dire que ces pays qui vivent une révolution démographique absolument hallucinante en termes de rapidité, ça se joue sur 30 ans, en Europe ça s'est joué sur un siècle et demi, n'ont pas le temps de s'adapter finalement.
C'est le grand problème et c'est ce sur quoi les démographes pointent un petit peu le doigt, en alertant tant les décideurs et les politiques, vous aurez peu de temps pour vous adapter et il faut peut-être prendre les devants et saisir les opportunités dès qu'elles sont là. Juste au Maroc, encore un chiffre, la fécondité est passée de 7,2% d'enfants par femme en 62 à 2%, 2,2% en 2010.
À peu près, presque comme en Europe.
Voilà, exactement. Et même en milieu urbain, c'est 1,8. C'est dire que on est dans des chiffres tout à fait comparables aux chiffres européens.
Alors, du coup, la question, quelle place pour les personnes âgées dans les pays du Sud ? Évidemment, vous avez la parole, les voisins, vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71. Victor Démé, John Mayamay chez 7 milliards de voisins sur RFI. Quelle place pour les personnes âgées dans les pays du Sud ? On en discute avec une anthropologue, un démographe, et puis à la lumière bien sûr de cet ouvrage collectif que vous publiez, Laurent Novick et Béatrice Le Sestre, Vieillir dans les pays du Sud. Nous accueillons un premier auditeur qui nous appelle au 33 1 84 22 71 71. Bonjour Blaise.
Bonjour Emmanuel.
Blaise, vous avez 44 ans, vous êtes donc ni jeune ni vieux.
Exactement.
Vous souhaitez vous exprimer, vous êtes à Pointe-Noire au Congo-Brazzaville.
Aujourd'hui, dans la société congolaise, en particulier même dans les sociétés africaines au sud du Sahara, la solidarité familiale s'est vraiment recentrée autour même de la famille au vrai sens du terme, c'est-à-dire papa, maman et les, et les enfants. Nous voyons, on va dire, un relâchement de l'énorme solidarité. Il vous suffit d'aller dans les hôpitaux, par exemple, et de vous rendre compte qu'autour d'un malade, il n'y a plus que plus que ses parents proches.
Et c'est-à-dire la lignée directe, en fait. Vous voulez dire qu'il n'y a pas les oncles, les tantes, il y a la lignée directe.
Voilà, c'est-à-dire la lignée directe. Lorsqu'il s'agit des petits mots comme un palud, un voilà, les gens peuvent venir parce qu'il s'agit de quoi, de donner quoi, 10, 15, 20 millions d'euros. Mais lorsqu'on commence à parler de grands mots, comme un cancer de prostate, comme un cancer du cerveau, ça devient assez lourd. Et là, honnêtement, les gens se recrattent et se disent, ah ben, moi, il faut que je garde un peu de l'argent parce que si demain, un membre de ma lignée très proche tombe malade, je ne pourrais pas lui venir en aide parce que j'aurais secouru quelqu'un d'autre qui est un tout petit peu plus loin.
Et vous, dans votre famille, Blaise, alors comment ça fonctionne, la solidarité envers les plus âgés?
Ben, écoutez, dans notre famille, nous sommes déjà un peu comme des self-made-men parce que nous nous sommes beaucoup battus à l'école et avons trouvé du travail. Ça fait que, voilà, quand tout le monde travaille un tout petit peu, l'élan de solidarité est plus facile parce qu'on peut se diviser par un certain nombre, 2, 3, 4, 5, selon le nombre d'enfants qu'on est. Et chez nous, c'est un peu comme quand on a par exemple notre maman qui est malade. Bon, lorsqu'on parle de, voilà, des petites factures de 10, 15, 20, 30 euros, alors moi, je peux passer là-bas à déposer l'argent qu'il faut pour ses soins. Ma petite sœur peut passer, ma grande sœur peut passer. Mais lorsqu'on commence à parler de quelque chose de très gros, quand il faut une opération, là, il y a 2 ans, elle a dû se rendre en Chine pour des soins, ben, nous sommes assis, ma sœur et moi, nous avons divisé le montant de la facture envoyée par la clinique, par le nombre d'enfants que nous étions, et nous avons fait face à cette charge.
Ouais.
Et je veux dire, la qualité.
Mais vos parents habitent où physiquement à l'heure actuelle? Vous parlez de votre maman, vous avez aussi votre papa, Blaise?
Voilà, nous sommes orphelins de père, mais notre mère habite avec nous, elle habite ici à Pointe-Noire dans la parcelle que papa
a. C'est ça.
Que papa a
votre mère donc ne souffre pas de solitude, hein, elle vit bien avec d'autres membres de votre famille.
Non, bien au contraire. 65 ans, je vous dis bien, elle a 65 ans aujourd'hui.
Vous pointez une baisse des solidarités familiales sur le financement de la santé, notamment quand il y a un pépin de santé, mais néanmoins, autour de vous, si on prend le cercle élargi de votre famille, aucune personne âgée ne vit seule.
Ah non. Je veux dire, notre famille, elle est un peu particulière aussi parce que comme vous savez, lorsqu'une maman a mis des enfants au monde, ces enfants-là ne se comportent que selon ce qu'elle leur donne comme éducation. Si maman dit, écoutez, je suis votre mère, vous ne vous occupez que de moi. Si demain vous avez une cousine, un cousin, un frère, une tante qui est malade, vous ne lui venez pas en aide, les enfants vont faire un petit peu la vente de leur mère. Mais si par contre elle leur a communiqué l'amour de la famille,
c'est intéressant votre témoignage, Blaise. Merci beaucoup pour ce témoignage extrêmement intéressant à Pointe-Noire, au Congo-Brazzaville. Alors, nos invités ont pris beaucoup de notes sur ce que vous avez expliqué, Blaise, parce que vous êtes à la fois un observateur très fin et puis témoin des évolutions dans votre propre famille, Laurent Novick
je continuerai.
Voilà. Blaise, vous avez raison. On a organisé un colloque il y a 4 ans à Meknès, ce qui a donné, ce qui a été la base de l'ouvrage qu'on vient de publier aux éditions Cartalar. Et parmi les nombreuses communications et chercheurs donc qui avaient participé à ce colloque, je dirais presque tous faisaient les mêmes constats que vous, à savoir que les solidarités familiales sont de moins en moins élargies et peut-être sont en train de souffrir. Je dirais presque de s'effriter. En effet,
y compris dans des pays où le nombre d'enfants reste élevé.
Et malgré l'importance,
mais
les enfants sont pas
large.
Tous non plus juste à côté des personnes les plus
âgées.
Sur
le plan géographique.
Voilà.
Vous restez avec nous. Bien évidemment, on va continuer d'analyser le témoignage de Blaise et on va donner la parole à d'autres auditeurs sur les solidarités familiales. D'ailleurs, le sous-titre de votre livre, c'est bien les solidarités familiales à l'épreuve du vieillissement. Retour dans 3 minutes, juste après le flash sur RFI. Je vous rappelle notre numéro de téléphone, les voisins et les voisines, 33 1 84 22 71 71. Restez avec nous surtout. Nous parlons des personnes âgées sur RFI chez 7 milliards.
Salut les 7 milliards de voisins et voisines. Cette semaine, je vous propose de réécouter ou d'écouter les émissions qui ont eu le plus de succès pour tous ceux qui n'étaient pas à l'écoute ce jour-là.
7 milliards de voisins, on est ensemble.
Bienvenue si vous nous rejoignez, 7 milliards de voisins sur RFI, vieillir dans les pays du Sud aujourd'hui. Oui, les pays en développement vieillissent eux aussi, même si en Afrique le premier problème est encore le contrôle des naissances. C'est le continent qui pourrait avoir le plus de personnes âgées derrière l'Asie après 2050, en chiffres bruts, hein, pas proportionnellement à la population bien sûr. On en parle à la lumière d'un ouvrage collectif passionnant avec des démographes, des géographes, des sociologues, des anthropologues, dans le studio Béatrice Lecestre-Rollier, et Laurent Novick, démographe. Béatrice Lecestre, vous souhaitiez réagir par rapport au témoignage de Blaise qui nous appelait de Pointe-Noire au Congo en première partie d'émission, qui disait oui, certes, solidarité familiale dans la lignée directe, grands-parents, parents, enfants, etc. Mais dans le cercle élargi de la famille tel qu'on la conçoit encore aujourd'hui en Afrique, hein, beaucoup moins notamment quand il y a des factures importantes à payer sur des frais de santé par exemple.
Oui, Blaise met le doigt sur quelque chose d'important, c'est-à-dire que la solidarité, elle est toujours là et elle est forte, hein. Pas simplement d'ailleurs dans la lignée, simplement on peut pas faire face à tous les besoins et elle est de plus en plus segmentée. C'est peut-être ça qu'il faut entendre par elle s'effrite. C'est pas qu'elle s'effrite en réalité, c'est qu'elle est.
Ce sont les dépenses qui ont augmenté aussi. Peut-être.
Voilà, les dépenses augmentent, les gens vieillissent, donc plus on vieillit, plus c'est corrélé à une dégradation de l'état de santé et donc on doit faire des choix. Et surtout, il faut le rappeler, dans des pays où la protection sociale est ou les systèmes de retraite, parce que c'est aussi quelque chose qu'il faut mettre en avant, sont non pas inexistants, mais concernent de très faibles minorités de la population. Donc l'essentiel des charges repose sur les familles et sur les solidarités, qu'elles soient intergénérationnelles ou intragénérationnelles d'ailleurs, hein, parce que on s'aide aussi, pas simplement parents-enfants, on s'aide aussi, il l'a montré Blaise d'ailleurs, avec les tantes, avec les cousins, les neveux, simplement quand il y a des choix à faire, eh ben on va privilégier évidemment les plus proches parents ou ceux avec qui on a tissé des liens plus proches. Et ces choix se font souvent par rapport à la santé.
Alors vous nous le disiez en première partie d'émission, le Maghreb a connu un vieillissement de sa population ultra rapide, hein, ça s'est fait en l'espace de 30 ans pour un siècle et demi en Europe. On comprend aussi à quel point ça forcément ça crée des tensions dans les sociétés, d'où notre question pour l'Afrique subsaharienne qui ne connaît pas encore cette révolution démographique, mais tout de même la population des personnes âgées continue d'augmenter. Les solidarités familiales, du coup, sont-elles suffisantes pour assurer une dignité aux vieux, comme on dit sur le continent? Vos témoignages au 33 1 84 22 71 71. Et je voudrais que nous donnions la parole à une sociologue qui est une des auteurs de votre ouvrage collectif, Sadio Banning. Bonjour.
Oui, bonjour Emmanuel.
Sadio Banning, oui, bonjour, vous êtes professeur à l'université Gaston Berger de Saint-Louis au Sénégal et vous avez participé à l'ouvrage collectif Vieillir dans les pays du Sud. Le Sénégal, plus globalement dans le pays, je sais que vous avez beaucoup travaillé sur le pays CRR, mais comment se pose globalement dans le pays la question des vieux au Sénégal aujourd'hui?
Merci Emmanuel. Donc j'en profite pour dire bonjour à Laurent et à Béatrice.
Bonjour.
Bonjour. Donc j'ai suivi avec beaucoup d'intérêt les interventions justement sur la question des personnes âgées. Mais je me disais que dans le contexte africain, mais en général, et particulièrement dans le cas du Sénégal, pour rappeler que on est dans des normes où c'est à la cohabitation avec ces personnes âgées. Ce qui fait que souvent, il est très rare de trouver une personne qui vit seule, une personne âgée qui vit seule, et que souvent, elles sont déclarées comme étant les chefs de ménage, sachant qu'on vit dans des configurations familiales très grandes. Et ça rejoint un peu l'idée de Béatrice sur le fait qu'on assiste à des solidarités segmentées par rapport aux priorités intergénérationnelles dans un cadre de famille élargie. Ce qui fait que donc la situation des personnes âgées au Sénégal recoupe une diversité, mais une complexité telle que, c'est vrai que dans le cadre de cette élection, nous n'aurons pas l'occasion de discuter de tout, mais une chose est quasi certaine, c'est que les solidarités se recomposent et se redessinent par rapport aux pressions, spéciale, par rapport aux politiques publiques à leur égard, etc. etc. Mmh. Donc, dans tous les cas, on est dans les dynamiques de changement par rapport à cette catégorie.
Alors, juste une petite parenthèse, peut-être un rappel, Sadio Banning, c'est que le Sénégal a été le premier pays d'Afrique de l'Ouest à se doter d'un système d'accès aux soins pour les personnes âgées.
Effectivement, vous avez bien raison de le soulever. C'est une très belle initiative, malgré les difficultés qu'on connaît par rapport au plan Sésame. Ça a été une très belle politique qui a permis aujourd'hui à certaines personnes âgées qui ne travaillaient pas, donc qui n'ont pas eu de pension, de pouvoir consulter et de pouvoir bénéficier de soins. Et en cela, c'est une initiative louable qui a permis aujourd'hui à ces personnes âgées de bénéficier, si tant soit peu, de cette couverture sociale qui reste quand même à améliorer par rapport aux besoins qui sont sentir.
Restez en ligne avec nous parce qu'un auditeur sénégalais de passage à Paris, je crois, souhaite avoir la parole dans notre débat. Bonjour Mohamed.
Bonjour.
Vous avez 76 ans, c'est bien cela ?
C'est ça.
Oui, et vous souhaitez intervenir ?
C'est ça. Je voulais faire une observation en ce qui concerne la solidarité dans la solidarité qui s'effectue actuellement au sein de la famille. C'est une réalité, il faut le constater. Mais ça, c'est dû à la modernité, c'est tout à fait normal. Je voulais également ajouter ceci à propos du plan Sésame. Je crois qu'il faut se féliciter de cette initiative du gouvernement de faire bénéficier les personnes âgées, parce que en fait, même dans la société ancienne, les sociétés traditionnelles, les personnes âgées sont à la charge des plus jeunes. Je voulais principalement faire une observation en ce qui concerne le respect et la considération que nous voulions à l'époque pour les personnes et qui actuellement s'effritent de plus en plus. Je donne un exemple.
Oui, justement.
Je connais un grand-père, une vieille personne qui a donné l'ordre à son fils d'aller chercher ses neveux qui sont au nombre de 5. Ce fils n'avait qu'un garçon. Et il s'est retrouvé à la tête d'une famille de 7 personnes d'un seul coup parce que sa mère vient les aider. Et aujourd'hui, il n'arriverait à l'aider de personne, d'aucune personne âgée, de dire à son fils de prendre en charge 5 de ses neveux. Parce que simplement, le père concerné n'était pas en mesure de les prendre en charge.
Oui, c'est ça.
Et pourtant, ce monsieur l'a fait. Il a gardé ses neveux, il les a nourris. Il les a pu grandir et jusqu'à ce que toutes ces personnes soient devenues des pères de famille.
Merci pour ce témoignage, Mohamed. Bravo pour votre âge. Déjà, vous semblez extrêmement en forme. Ça rejoint un peu ce que nous disions. Là, tous nos témoignages convergent pour dire qu'il y a des arbitrages qui sont finalement douloureux, qui vont à l'encontre de ce que prévoirait la culture. Béatrice Lecestre.
Il y a des arbitrages qui sont douloureux et qui seront à l'avenir de plus en plus douloureux, évidemment. Mais en même temps, ça montre que les solidarités ne sont pas en déperdition. Je crois qu'il faut insister sur le fait que les solidarités existent, qu'elles sont encore fortes, importantes. Simplement, elles sont plus segmentées, comme beaucoup d'auteurs le disent. Elles sont plus individualisées. Elles sont peut-être moins. Elles suivent moins les voies traditionnelles. Il faut insister aussi sur le fait que. Ah, j'ai perdu mon idée, excusez-moi.
C'est Laurent, pas grave, tu voulais... parce que Laurent Novick, et on va donner la parole à Sadio Banning qui est au Sénégal.
Je voulais ajouter l'idée que la primauté de ces solidarités familiales, quoi qu'on en dise, nécessite justement de penser le vieillissement des personnes individuelles dans des relations intergénérationnelles. Donc en fait, tout à l'heure on faisait allusion à la protection sociale qui est encore globalement défaillante, même si le cas du Sénégal est plutôt exemplaire de ce côté-là. Un accès aux soins difficile, un coût élevé, des pensions retraite quasi inexistantes pour la très grande majorité des retraités, des personnes âgées vivant en Afrique. Et si les pays faisaient des investissements en fait dans ce sens-là, avec toute la complexité, la difficulté que cela nécessitera, on ne fait pas que des investissements pour les plus âgés, on fait aussi les investissements en développement humain pour les plus jeunes, parce que ces plus jeunes, ils ils vont aussi avoir des engagements par rapport à leurs propres enfants, la scolarisation de leurs propres enfants. Donc tout gérer dans ces relations intergénérationnelles est trop complexe. Donc les solidarités familiales, elles sont là, elles tiennent tant qu'elles peuvent, mais elles ont vraiment maintenant besoin du soutien des, on va dire, solidarités publiques.
Sadio Banning, qui est sociologue à l'université Gaston Berger de Saint-Louis, vous avez le sentiment aujourd'hui, justement, avec ces tensions économiques, le fait que l'argent manque dans le cercle familial, que du coup, ce que vous appeliez le chef de famille, vous nous disiez tout à l'heure que même quand on est âgé, à la limite, si on n'a plus de revenus, on est toujours le chef de famille, le chef de ménage. Néanmoins, est-ce que ce pouvoir-là s'effrite du fait que l'argent manque ou pas?
Alors, donc là, c'est comme le disent mes collègues, sur le fait que les solidarités sont dans tous les cas sous pression. Mais quand on considère le statut, la position du chef de ménage, on se rend bien compte que son pouvoir politique ou son pouvoir social ou économique dépend toujours de sa capacité à être un pourvoyeur dans le ménage, donc dans la famille. Ce qui fait qu'on voit que dans les configurations familiales, comme dit Babacar, c'est vrai que c'est les enfants qui ont tendance à prendre en charge le père. Mais il ne faut pas oublier que les personnes âgées sont des acteurs très dynamiques du système d'échange. Autant elles donnent, autant elles reçoivent. Et on a vu que plus ils ont des revenus, ils ont tendance à garder ce statut. Mais quand elles passent à la retraite ou quand il y a des enfants à charge, des grands-enfants mariés, non actifs, ils continuent toujours non seulement de s'assumer elles-mêmes, mais aussi d'assumer les charges de leurs descendants.
Ouais, si tant est qu'elles aient un petit peu de revenus et un petit pécule de côté. Sadio Banning, merci beaucoup. Je voudrais qu'on donne la parole à des auditeurs qui nous appellent en direct au 33 1 84 22 71 71. Le sujet suscite des réactions. Vous parliez d'ailleurs de solidarité sous pression au Sénégal. Alors bien sûr, vous nous appelez où que vous soyez dans le monde. Nous sommes en ligne avec Pascal qui nous appelle de Libreville. Bonjour Pascal.
Bonjour Emmanuel. Pour vous dire que la situation des personnes âgées au Gabon, ils ont évolué dans un contexte où, comme vous le savez, la population du Gabon est de plus en plus urbanisée. Ça veut dire que l'exode rural est en train de prendre de l'ampleur. Et nous savons aussi que la proportion des personnes âgées ne fait qu'augmenter au Gabon. Bon, c'est vrai que certes, nous avons une caisse d'assurance maladie au Gabon qui marche bien, mais qui reste à perfectionner. Mais nous croyons qu'avec les maladies du vieillissement, l'offre de soins ne soit pas adaptée aux populations de troisième âge, à la proportion des personnes qui ne fait qu'augmenter. Ça veut dire que les services de cardiologie, les services de gériatrie, les diabétologues, on n'en aura pas suffisamment assez. Ça veut dire que si on ne rectifie pas le tir pour prendre en charge, ne fût-ce que sur le plan de la santé, ces personnes, en matière de qualité des soins, on va avoir beaucoup de problèmes.
Oui, parce que dans le même temps...
Et la solidarité familiale.
Oui,
allez-y.
Non, allez-y, je vous en prie, poursuivez Pascal.
Oui, bon, donc il y a ce problème-là. Ça veut dire que le système de santé doit s'adapter pour faire un plan qui puisse prendre en charge ces personnes âgées et l'offre de soins doit être adaptée à cela.
C'est ça. Ce qui veut dire que pour vous, Pascal, on va abréger si vous le permettez, parce que d'autres auditeurs veulent absolument s'exprimer sur ce sujet qui suscite vraiment des réactions. Ce qui veut dire que, de ce que je comprends de votre témoignage, c'est pas tellement le problème de la solidarité familiale là, c'est plutôt vous attendez maintenant un rôle de l'État accru, voire naissant, puisque pour le moment, c'est vrai que les dépenses, notamment en matière de santé, vous le disiez, Laurent Novick, pour l'instant, se borne à s'occuper surtout du plus urgent, c'est-à-dire d'une population jeune, d'une natalité où on a encore des morts prématurées chez les bébés, etc. Et donc c'est plutôt ça la priorité des investissements publics à l'heure actuelle.
Je trouve que la réaction de Pascal est intéressante parce qu'en même temps elle montre quelle est la définition de la vieillesse. La vieillesse elle prend son sens quand les problèmes de santé, je pensais que Sadio qui avait travaillé là-dessus aurait le temps de le dire, quand les problèmes de santé interviennent. Et c'est là qu'en fait on peut commencer à parler de vieillesse. et de problématiques autour de l'accès aux soins, du coup. Donc, on a oublié de dire que les pays africains vont aussi connaître une transition épidémiologique. Donc, de nouvelles maladies, c'était Blaise tout à l'heure, il faisait allusion, sont en train de se développer, les maladies de la dégénérescence, hein, les maladies liées, évidemment, les cancers, hein, qui sont liées à la vieillesse individuelle, mais aussi des maladies nouvelles liées aux nouveaux comportements alimentaires.
Le diabète en particulier.
Le diabète.
Alors, ceci dit, il y a tout de même des problèmes de subsistance si on lit, par exemple, des témoignages en Ouganda, hein, puisqu'il y a eu tout un chapitre qui a été consacré pour prendre d'autres pays que l'Afrique francophone. Il y a un témoignage d'un homme qui dit, Georges, je crois qu'il a 75 ans, qui cultive sa terre. Alors, bien sûr, il vit pas seul, toutes ces personnes âgées vivent. D'ailleurs, en Ouganda, ce qui est intéressant, c'est que les enfants sont morts du sida. Les enfants adultes de ces personnes âgées sont morts du sida. Donc, ces personnes âgées vivent avec des petits-enfants ou des arrière-petits-enfants, dont parfois même ils ont la charge. Alors, c'est vraiment très lourd. Ils cultivent la terre, hein, pour survivre. Et il dit qu'il n'est pas propriétaire de sa terre, qu'il n'a pas de titre foncier, et que donc, il n'a plus de fils, et que donc, il faut qu'il se trouve une autre épouse, un peu en cachette d'ailleurs de son épouse actuelle, pour espérer avoir un fils et pour ne pas qu'on lui retire la terre. Donc, on voit bien là aussi qu'il y a quand même des logiques de survie qui se posent pour ces personnes-là.
Absolument, le problème de la sécurisation des terres, comme on dit, et des droits fonciers est très très important en Afrique, dans les milieux ruraux, et le problème d'avoir une descendance masculine dans beaucoup de sociétés est extrêmement important. Dans le témoignage, dans l'exemple que vous citez, cet enfant n'a que des filles, et effectivement pas de fils, et il craint qu'à sa mort, parce qu'il est assez âgé, la famille soit spoliée de la terre. Hein, donc c'est en milieu rural, et pas simplement en milieu rural, d'ailleurs en périphérie urbaine, le problème de la terre qui offre une certaine sécurisation vivrière est quelque chose d'important. Par ailleurs, à Madagascar, autre exemple, il y a le problème de la terre qui est toujours important, mais symboliquement, et moins important aujourd'hui financièrement, économiquement, parce que les terres sont petites, on les a partagées au fil des héritages, et souvent les jeunes vont en ville, hein. On a souligné le poids de l'urbanisation, de l'exode rural, et donc les anciens sont, en tant que maîtres des terres, sont moins respectés qu'avant, puisque la terre a perdu de sa valeur économique. Hein. Donc il y a effectivement des positions aussi de pouvoir qui sont corrélées au statut de personnes âgées, et qui sont en train aussi d'être modifiées, indépendamment des problèmes de santé des personnes âgées. Hein. C'est tout un contexte qui évolue.
Vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71. Nous accueillons Félix qui est à Bamako. Bonjour Félix.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes à Bamako mais vous êtes camerounais. Nous vous écoutons.
Oui Emmanuel. Alors moi je veux appeler pour marquer mon coup et pousser un peu mon coup de gueule concernant le traitement, la manière dont les vieux et les personnes âgées sont traitées en Afrique. Oui, parce que l'Afrique se veut depuis des années être le berceau des, le paradis des personnes âgées. Nous critiquons de façon aisée et allègrement les Européens qui, soi-disant, abandonnent leurs personnes âgées dans les maisons de retraite et ne s'en occupent pas. Mais je dois dire que l'Afrique n'est pas le bon exemple parce que en Afrique, un vieux est bien traité quand il est au sein d'une famille aisée. Mais nous observons tous les jours que les personnes âgées, pour peu qu'elles n'aient pas les moyens de subsistance, sont abandonnées à elles-mêmes, et on les voit ici au Mali en l'occurrence, au feu rouge, à longueur de journée, où elles vivent de la mendicité. Et voilà, et franchement, rien qu'à les voir, on constate qu'elles sont très mal en point et elles ne sont prises en charge par personne.
Donc, observez un phénomène autour de vous, notamment de personnes âgées qui peuvent être exclues du clan pour des prétextes de sorcellerie, de choses comme ça. Et en réalité, il y a souvent des gros prétextes économiques. Hein, on ne peut pas forcément subvenir aux besoins de ces personnes-là.
Tout à fait. Comme si cela ne suffisait pas, voilà, ces personnes sont pointées du doigt, on les traite de sorciers, elles sont marginalisées. Et très souvent, c'est parce qu'elles font partie des familles peu aisées où il n'y a pas vraiment les moyens de les prendre en charge. Et voilà, et l'État, et moi je dénonce ici les politiques qui, franchement, n'ont rien fait jusqu'ici pour pouvoir créer un vrai programme, mettre une vraie politique sur pied, vraiment pour venir en aide à ces personnes, pour les assister.
C'est-à-dire, par exemple, quoi, un minimum vieillesse, c'est ça? Un minimum retraite et accès aux soins?
Par exemple, j'aimerais bien que les Africains décrivent le système de maisons de retraite. Moi, je dis, un système tel que celui en Afrique, sauverait vraiment beaucoup de vieux. Moi, je préfère encore qu'on crée des maisons de retraite en Afrique et que ces vieux-là qui sont abandonnés comme ça puissent être embarqués là-bas et que, au moins, elles soient soignées, nourries et logées.
On a bien compris votre propos. Merci beaucoup, Félix, pour ce coup de gueule. Alors, ceci dit, quelles sont vos réactions, Laurent Novick, par rapport à ça? Parce qu'aucun système ne peut servir de modèle à l'heure actuelle, de toute manière, que ce soit en Europe, en Afrique ou ailleurs.
Non, et probablement pas le modèle du Nord pour la situation des pays africains. Mais bon, Félix d'abord dit que les vieux abandonnés, ça existe, et je crois que c'est bien de le dire, et je crois que c'est bien de mettre ça dans le débat public, parce que on a en Afrique, spécialement en Afrique d'ailleurs, mais plutôt dans les pays du Sud. Et même si on allait interroger les départements d'outre-mer français, on aurait peut-être un peu ce débat-là. L'idée que la famille peut répondre à tous les problèmes, disons, du vieillissement. Donc il faudrait se demander pourquoi on tient toujours cette rhétorique qui évite évidemment de mettre en place, ou en tout cas de différer la mise en place d'un système de protection sociale et de droit spécifique pour les personnes âgées, tant qu'on dira que les familles peuvent répondre à tous les problèmes et qu'on réaffirmera le statut valorisé des anciens, et je suis pas en train de le contester non plus, mais en le mettant toujours en avant et sans le discuter, on n'avancera pas dans ce débat.
Est-ce qu'il y a une troisième voie possible? Justement, on arrive vraiment au terme de cette émission, je voudrais prendre aussi une dernière auditrice. Bon, en Occident, les personnes âgées souffrent d'une grande solitude, c'est pas du tout le cas des personnes âgées dans les pays du Sud, elles sont pas seules physiquement. Est-ce que les pays du Sud peuvent penser une autre solution que ce qu'on connaît en Occident, qui n'est pas souhaitable?
Je commencerai à dire qu'il ne faut pas trop opposer, il faut sortir un peu de cette opposition Sud-Nord. Hein. Vu du Sud, les pays du Nord abandonnent leurs vieux dans des mouroirs, c'est une chose impensable au Sud. On entend souvent ce mythe de la solidarité africaine que Félix vient de dénoncer. Et au Nord, on a tendance effectivement à valoriser les solidarités au Sud. Mais au Nord, on n'abandonne pas nos vieux dans des pourcentages de personnes âgées résidant dans des maisons de retraite sont très faibles. Laurent, tu peux témoigner.
Massivement, les personnes âgées se plaignent quand même de souffrir de solitude, d'être seules chez elles quand elles ne sont pas dans des maisons de retraite.
On peut être seul chez soi également.
Et ne pas se sentir seul.
dans les enquêtes et pourtant entouré avec 5 ou 6 personnes dans sa famille.
On a d'ailleurs des témoignages au Sénégal, là, dans l'article de Fatouma Tahan, notamment, de personnes âgées qui sont pourtant, qui cohabitent avec des enfants, mais qui disent se retrouver seules dans la journée, soit à garder les petits-enfants, soit à attendre tout simplement que le fils, la fille, la belle-fille, le beau-fils rentrent, et qu'elles souffrent terriblement de la solitude. Il faut ajouter pour l'Afrique le poids de l'émigration, je pense en particulier au Sénégal, énormément d'enfants sont en émigration. Et donc la solitude peut être forte aussi au Sud.
On accueille un dernier témoignage qui nous appelle au 33 84 22 71 71. Vanda, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes en région parisienne, vous avez 78 ans.
Oui, j'ai 78 ans et je ne suis pas à plaindre parce que je ne suis pas pauvre. Mais je suis pauvre sur le plan affectif parce que j'ai 2 fils qui sont très loin. Enfin, très loin, Toulouse pour le deuxième et les Caraïbes pour l'aîné. Ouais. Et je me sens dans une déréliction, un désarroi absolu. Parce que j'ai 78 ans et je me rends compte que, bon, étant d'origine polonaise, bien que née en France, j'ai eu toujours cette culture de l'hospitalité, de la générosité, d'accueillir les gens. Et de me retrouver complètement seule maintenant, bien que j'entende les déclarations des gens du Sud, malgré tout, dans les pays du Nord comme dans les pays de l'Est, surtout, il y a une solidarité pour les personnes âgées que je me semble ne pas retrouver ici en France, où les familles sont éclatées, loin. Et
vous parlez surtout là d'une solidarité affective, finalement, qui vous manque, hein, d'une chaleur.
La solidarité affective, oui. Parce que mon père et ma mère sont morts dans mes bras, mon père était grabataire, enfin j'ai passé ma vie à m'occuper d'eux. Et c'est vrai que... Pardon. C'est très dur de se retrouver ainsi avec
Oui, oui, bien sûr, on comprend très bien votre témoignage qui, je dois dire, est tout à fait émouvant. Merci beaucoup de nous avoir appelé, Vanda. Ce témoignage-là, on pourrait en avoir aussi des dizaines. C'est un témoignage qui vient du Nord, mais comme vous le disiez, il ne faut pas opposer le Nord et le Sud là-dessus, puisque finalement, on est dans une problématique universelle, le vieillissement.
Absolument.
Béatrice
Lecesse. Oui. Et ce témoignage, oui, est émouvant et on le retrouve beaucoup, beaucoup dans les enquêtes. Alors, c'est aussi une génération qui a elle-même pris en charge et vu mourir dans leurs bras, comme ils disent, leurs parents ou leurs beaux-parents, et ils s'aperçoivent que leurs enfants ne seront pas forcément en mesure de répéter ce schéma, et la douleur.
Éric nous voulait témoigner également à Yaoundé. Lui, sa grand-mère est décédée il y a quelques semaines. Alors, toutes nos condoléances. Elle a vécu 3 ans à la maison avec Éric, qui a 28 ans. Elle est morte dans ses bras, dans son sommeil, apaisée. Il est très fier de cela. Mais alors, juste en un mot, que faudrait-il là pour que dans les dizaines d'années à venir, puisque certains continents vont vivre une révolution démographique, que faudrait-il pour que nous n'ayons plus ce genre de témoignages?
Voilà, Laurent.
Laurent ne vit que vraiment en quelques secondes.
J'ai pas le remède miracle parce que je suis pas aux manettes des décisions politiques, mais je crois qu'il faut un grand courage politique de la part des gouvernements en Afrique pour que la vieillesse soit une vieillesse plus digne, une vieillesse mieux respectée.
Sans tomber dans les travers de ce qu'on vient d'entendre en Europe. Merci à tous les deux. Il faut absolument vous lire parce que votre ouvrage est passionnant. Vieillir dans les pays du Sud, on côtoie énormément de témoignages, pas seulement d'Afrique, de l'Inde, d'Ukraine, etc. Béatrice Lecestre-Rollier, Laurent Novick. Demain, 7 milliards de voisins, émission rediffusée. La parole est aux pères qui élèvent seuls leurs enfants, que leur épouse soit décédée ou qu'elle ait quitté le domicile conjugal. Les hommes sont peu nombreux à élever vraiment seuls leurs enfants. Quelles sont leurs difficultés? Comment grandissent ces enfants?